Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Chers amis, bonjour. Eh bien, nous continuons cette aventure merveilleuse, extraordinaire, de la vie de Monique, la maman d'Augustin et l'épouse de Patricius. On se souvient que Monique avait épousé Patricius. Patricius était il n'était pas chrétien, il était païen. Et ses parents, à Monique, l'avaient fait épouser Patricius. Alors, on peut s'interroger. Moi, je m'interroge parce que ses parents ont voulu qu'elle épouse Patricius, alors qu'ils savaient que Patricius n'était pas chrétien et que ses parents eux-mêmes étaient chrétiens et que à l'époque c'était important. Alors, il y a quelque chose là que je ne comprends pas, parce que peut-être parce qu'il était notable, le Patricius. Je ne sais pas, je ne le comprends pas. Je sais juste que la maman de Monique, elle avait éduqué Monique dans la religion, parce que cette maman de Monique, elle avait connu le temps des martyrs. Nous sommes en l'an 330, dans les années 300 et quelques. Et donc, il y avait eu les martyrs. Le christianisme n'était pas encore... c'était pas encore répandu sur toute la terre. Et donc, la maman de Monique avait élevé Monique dans cette foi chrétienne profondément ancrée en elle. Et donc, comment ça se fait qu'ils aient amené Monique à épouser Patricius ? Je n'en sais rien, et ce n'est peut-être pas le plus important. De toute façon, important ou pas, je n'ai pas la réponse, et je ne suis pas sûr que ce soit important. Alors, nous continuons. Nous continuons, et nous devons dire que, heureusement, que la Monique, elle a su s'arrêter de picoler. Heureusement qu'elle a mécontenté la vieille servante et que la vieille servante l'a bien humiliée et qu'elle a eu, Monique, la sagesse de se corriger au lieu de corriger la vieille servante. La vieille servante, elle l'avait humiliée en la traitant de buveuse de vin pur avec l'intention de la piquer. Et Monique, elle a su en faire un autre usage de cette parole de la vieille servante. Elle a su se remettre en question. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, ce fait de se remettre en question. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien, Monique, elle a su le faire. Et voilà. Et donc... Si elle n'avait pas su se remettre en question, la Monique, elle serait elle aussi dans le peuple du soupirail. Et elle n'est pas dans le peuple du soupirail. Tandis que là, ça va mieux. Oh, Saint-Esprit, est-ce que je pourrais voir Monique ? Hein, je pose la question au Saint-Esprit qui est dans les escaliers et qui fait le ménage. Hein, oh, dit Saint-Esprit, est-ce que je pourrais voir Monique ? Où elle vit ? Où elle habite ? Oh oui, mon tout petit, ça t'encouragera à me dédier tes mots et tes pensées, me répond le Saint-Esprit. Hein, non pas pour moi, hein, non pas pour le Saint-Esprit, c'est lui, le Saint-Esprit ne demande ça pas pour lui, il n'en a pas besoin. Hein, je suis, dit-il, et n'ai ni commencement ni fin, ni changement ni variation, sage et éternel, je suis parfait. Mais toi et les tiens, ah, quel boulot! Monte un peu pour voir et je te montrerai. Que je monte où ? Monte ! J'appuie ma main sur la rampe de l'escalier. Monte ! Allez, monte ! Me dit l'esprit. Et je monte, je monte, je monte. L'escalier a changé de forme. Ce n'est plus un escalier d'immeuble, mais un escalier en colimaçon. Et arrivé proche du balai du Saint-Esprit, et alors que je ne suis plus gêné par la poussière soulevée par le Saint-Esprit, occupé à faire le ménage des escaliers, j'avise une étroite fenêtre. Fenêtre sans vitre, une meurtrière en fait, je regarde vers elle et voilà que le Saint-Esprit, d'un signe de tête, m'invite à y regarder. Et je regarde. Et je vois des constructions blanches et des constructions colorées, des maisons carrées avec au centre un jardin fleuri, quelques arbres pour l'ombre et un palmier pour les feuilles et les fruits, des oasis à l'eau bleue, des arbustes verts au tronc brun clair, du sable blond et des nuages blancs effilochés très haut dans un ciel bleu sourire. Des caravanes de dromadaires s'étirent au loin, tandis que dans son salon, devant le miroir où elle refait sa chevelure, une femme à la voix douce, claire, puissante et légèrement grave, chante la joie et la paix de Dieu. Elle est pleine de gratitude, pleine de joie, sereine, calme et en paix. Elle remercie le nom imprononçable de cette douce éternité de bonheur. Elle sort, caresse gentiment le lys près du portail. Un enfant aux cheveux châtains s'avance vers elle, le visage illuminé d'un sourire, agrandi par la joie de la main de la dame dans ses cheveux. Cette femme est sereine. Elle a enfin trouvé la paix du cœur. Non qu'elle ne fût pas en paix, mais elle était rongée de soucis et d'inquiétudes, car son fils aîné, Augustin, se fourvoyait dans des pensées et des préoccupations aussi stériles qu'inutiles. Rassurez-vous, cette histoire finit bien, mais laissez-moi vous dire comment elle commence. Monique est née en 331 ou 332 en actuelle Algérie, à Tagaste, une ville située sur les routes qui reliaient Hippone à Carthage, dans la province romaine d'Afrique, anciennement en Numidie. La future mère d'Augustin présente donc une double identité culturelle, berbère et romaine, ou plutôt romanisée. D'ailleurs, le nom de Monica est une adaptation latine de Monica, l'un des nombreux noms libyques formés sur la racine mon. Il constitue le diminutif de Mona, c'est un nom indigène bien attesté qui provient d'une divinité locale dont le culte est mentionné sur une inscription de Tignica. C'est en effet dans un monde encore majoritairement païen où le christianisme n'est toléré que depuis l'édit de Milan publié par l'empereur Constantin en 313 que Monique a vu le jour vers 331, aussi issue d'une famille de vieilles traditions chrétiennes. Monique qui sera baptisée d'ailleurs, non pas à sa naissance, puisqu'à l'époque on ne baptisait pas les gens à la naissance, parce qu'on se disait, une fois que la personne elle est baptisée, elle est consciente du bien et du mal, de la différence qu'il y a entre les deux. Donc, les péchés, ils vont être beaucoup plus graves et beaucoup plus chèrement payés. Et un jeune, comment voulez-vous qu'il résiste à cet afflux de vie plein de tentations avec les jeunes filles au sein lourd, les jeunes garçons à la belle musculature? Ça vous tente, ça. Et puis un bon pichet de vin, une bonne viande bien grasse, une journée au soleil, à cela couler douce. Ouais, des tentations, il y en a plein. Et quand on est jeune, résister à la tentation, ce n'est pas facile. Tout le monde n'est pas Padre Pio. Donc on ne baptisait pas les gens à la naissance pour leur éviter les tourments de l'enfer s'ils s'avéraient être de trop grands pécheurs après avoir reçu le baptême. Donc elle sera baptisée plus tard. Et d'ailleurs c'est Augustin qui fera des pieds et des mains, si j'ose dire, pour que le baptême se fasse tout petit. Parce que, comme Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Bon, mais nous n'en sommes pas encore là. Et en attendant ce jour, Monique va beaucoup pleurer. Elle va beaucoup prier, elle va beaucoup espérer, elle va beaucoup supplier Dieu. Et elle est en même temps une femme très intelligente. D'ailleurs, Augustin dira qu'elle était un génie. Elle est une femme très intelligente et elle peut discuter de haute philosophie avec les grands saints avant de l'époque, de l'Église ou pas, non pas parce qu'elle a une grande culture, mais parce qu'elle a une vie intérieure tellement riche, tellement profonde, tellement sincère, tellement nourrie de l'Évangile, que la réflexion est nourrie en elle et que son intelligence se développe dans la sagesse, dans l'amour infini, dans une charité insondable, une patience d'ange, une fidélité à toute épreuve, une merveille de femme, une très belle âme. Et je regarde ce magnifique jardin et une nostalgique mélancolie envahit mon âme et je veux quitter ce sentiment, ou plutôt cette émotion douce et inconfortable, mais impossible d'ôter mes yeux de là. Le Saint-Esprit est devant mon cœur et il fait le ménage. Il me tient par la nuque et me parle par images et odeurs, parfums associés aux arbres, au vent et à cette femme qui prie pour moi et a tant pleuré. Elle a 22 ans et ses parents lui ont donné un époux qu'elle n'a pas demandé et qui a 55 ans. Il s'appelle Patricius, c'est un petit notable, un décurion, un païen, un peu infidèle, passablement colérique et emporté. Il a bon cœur, mais il est violent. Quoiqu'il ne frappera jamais sa digne épouse, la modeste Monique, aux vêtements simples et à l'humeur patiente et décidée. Quand il s'énerve, ce qui arrive assez régulièrement, elle laisse passer l'orage, et lorsqu'il est enfin calmé, elle lui parle et lui explique, et il écoute. Elle sait tellement bien y faire que les autres femmes de Targast viennent lui demander conseil, et Monique de les conseiller et de leur dire de s'en prendre à leur propre langue. C'est-à-dire que quand la colère est là, ce n'est pas le moment de la vouloir calmer et apaiser, mais attendre que la colère se calme, s'apaise d'elle-même, que le silence se fasse pour doucement parler. Elle veut convertir son digne époux et il demandera le baptême avant de mourir. Après, ça aurait été plus difficile, elle a réussi, il est sauvé. Aura, youpi, mais ce n'est pas fini. À la semaine prochaine.